Alors, Pierre-Yves, c'est la nouvelle du jour. La presse devient un OBNL, c'est-à-dire un organisme, c'est-à-dire un OSBL, un organisme sans but lucratif.
Oui, géré par une fiducie, appuyé par Power Corp. Évidemment, on pense au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada. Et là, on va se le dire, la presse vient de jouer tout un tour à Mélanie Joly. Parce que, on disait, on n'est quand même pas pour subventionner des entreprises qui font de l'argent, des groupes milliardaires, parce que Power Corp fait plus de 30 milliards de dollars de revenus par année. Non, non, non. Là, y a deux pas, deux mesures, Paul. D'un côté, on finance des revues dont le contenu est parfois, on va se le dire, insipide, mais on le subventionne. Et là, tu dis, les quotidiens, on les subventionne pas. Donc, à cause de la nature de la nouvelle ou de la façon ou du format, on ne subventionnait pas. Mais là, va falloir réagir. Tu as un groupe qui est subventionné par des magazines, qui est public, coté en bourse, qui est à but lucratif, et tu as un groupe qui est un OBNL à but non lucratif, qui n'est pas subventionné, qui va être maintenant financé par des, oui, des pubs, mais qui va être financé par des donateurs, des gouvernements, des entreprises et Power Corp qui va émettre 50 millions de dollars. Donc, on vient de créer, dans le fond, un signal que la nouvelle ou l'information a une valeur collective et qu'on veut faire survivre à tout prix le modèle de la presse au-delà de la rentabilité. Et ça vient complètement détruire la fake news de, si tu veux, de TVA qui disait que Graeme Runston voulait racheter ou pouvait racheter le groupe. Donc, ça a complètement tombé à l'eau, tout ça. Et là, Paul, tu sais, l'avantage de la presse, c'est que l'iPad est quelque chose qu'on consulte tranquillement. Ce n'est pas comme le téléphone cellulaire. Oui, on a perdu beaucoup de lectorat en n'adaptant pas la presse plus au téléphone parce que c'était difficile d'adaptation, mais on est allé chercher de la clientèle qui regardait beaucoup plus de minutes le même outil. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc, maintenant, comment ça va survivre? Il y a quand même plus de 500 employés, une structure de coûts fixes énorme. Tu sais, il n'y a pas de différenciation entre un employé qui couvre le culturel et un employé politique et économique. Donc, il y a tout ça aussi qu'il va falloir calculer. Qu'est-ce qui vaut quoi et comment on veut rentabiliser le modèle à long terme?
Oui, mais parce que on a insisté sur le fait qu'on voulait que ça demeure gratuit et toujours accéder via la plateforme numérique et le iPad. Mais je disais tout à l'heure à notre Konica Techno, je ne sais pas si tu es d'accord avec... et Mathieu semblait d'accord, en tout cas. Il va falloir qu'ils investissent et développer sur d'autres plateformes. Moi, par exemple, si je suis à la maison et puis que j'ai pas une tablette et que j'ai toujours fonctionné avec un ordinateur de table, je peux accéder au site de Cyberpresse, mais j'ai pas la presse que j'aurais si j'étais obligé de m'acheter un iPad.
Par exemple, j'ai une tablette Windows, moi. Oui. Ça fonctionne pas sur Apple. Alors, ça fonctionne pas non plus sur les autres iOS. T'sais. Donc, tu as ça, j'ai ce problème-là. Et Paul, il y a aussi question de... Quel est ton type de revenu? Comment tu génères tes revenus? Est-ce qu'on veut maintenant y aller par une campagne de financement, des dons, transformer ça en organisme de charité pour être exposé à une capacité d'avoir des dons et des déductions d'entreprise et faire des levées de fonds annuelles pour avoir une entreprise avec des fonds de qualité? C'est la question. On n'est pas habitué à ça au Québec. T'sais, on a beaucoup eu des campagnes pour Le Devoir, mais de dire qu'on va financer la presse, c'est un changement de mentalité complet. Et c'est se poser la question où on veut mettre l'argent, dans quel type d'information, et est-ce qu'on va libérer certains secteurs, parce que si la nouvelle est importante, il y a beaucoup de revues, beaucoup de magazines qui couvrent certains secteurs. Est-ce qu'on va laisser aller certains secteurs pour se concentrer sur d'autres? Ce sera la question éditoriale à se poser.
Alors, parlons des banques. Maintenant, la Banque Scotia qui émite la Banque Royale et la Banque TD avec une hausse du taux hypothécaire 5 ans fixe.
Oui, évidemment, on passe à 5,34%, comme la TD est montée quand même à 5,59%, mais on démontre qu'à long terme, il y a une pression sur les taux obligataires 5 ans. Et comme il y a une pression sur les taux obligataires 5 ans, les prêts hypothécaires fixes 5 ans sont basés sur les taux obligataires 5 ans. Et donc, on veut augmenter le taux de grille. Même chose au niveau du risque. C'est-à-dire qu'on dit que le marché est plus risqué. On veut augmenter le taux 5 ans. Ça influence pas le taux variable, mais le taux variable est déjà influencé par les hausses de la Banque du Canada en général. Donc, Paul, je t'avais dit il y a quelques temps, si la Royale et la TD s'en vont dans une direction... Ça, c'est les deux locomotives de l'industrie canadienne. Les wagons restaurants en arrière, puis les autres wagons passagers vont suivre. Ben, c'est un peu ce qui se passe. La Scotia a suivi. Donc, on s'en va vers ça. Hey, faut pas oublier, Paul, qu'en 2008, le taux de grille était à 7,2.
Oui.
Tu sais, à 7,2, puis avant ça, on était bien avant ça, mais 7,2, puis là, on est quand même à 5,59 pour la plus haute banque canadienne. Donc, on n'est pas dans les plus hauts taux d'il y a 10 ans.
Non, c'est pas la catastrophe, là.
Mais comprenons qu'il y a une tendance. Certaines tendances à la hausse et qu'il faut se réhabituer à du financement qui n'est pas gratuit, parce que c'était presque gratuit maintenant.
On va terminer avec Québecor, c'est sorti très tôt ce matin, qui rachète à la Caisse de dépôt et placement le placement dans Québécois Média d'1,7 milliard, je pense.
Et Paul, ça a fini une saga qui dure depuis 18 ans maintenant, que le gouvernement du Québec, pas le gouvernement, excuse-moi, je vais rétracter mes mots, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, voyant la pression politique, écoute, on était allé avec Québécois pour investir dans Vidéotron à l'époque. Et Paul, je sais pas si tu viens, à l'époque, la famille Chagnon voulait vendre à Rogers. Et Rogers avait fait une offre. Et là, au Québec, on avait déchiré notre chemise en disant, on peut pas vendre à des intérêts canadiens, anglophones. Donc, faut sauver Vidéotron. Et ça a tellement été salutaire pour Québécois, parce que lorsqu'on regarde les états financiers de Québécois, on se dit, mais que serait Québécois sans Vidéotron? Pas grand chose. Paul, on a 4 milliards de revenus. Mais quand on va au total dans l'entreprise, mais quand on va dans l'information sectorielle, et qu'on regarde le secteur des télécommunications, ben 3,3 milliards des revenus de l'entreprise viennent de Vidéotron, mais surtout la marge opérationnelle, 1,5 milliards, 1,534 précisément, sur 1,593 provient de Vidéotron. Donc, on peut dire, en gros, que Vidéotron, c'est la vache à lait de Québécois, c'est l'avenue, c'est le paroxysme, c'est le nirvana de la non-souffrance, Paul, merci pour le pléonasme. Mais tu comprends, on fait des profits avec Vidéotron et les autres entités ne servent qu'à nourrir ça ou qu'on tente de nourrir ça. Donc, ce qui est le hockey, le sport, les médias, tout ça ne fait presque pas de profit ou peu de profit une fois qu'on a réparti les frais du siège social. Ce qui nous reste, c'est une volonté de se servir de Vidéotron comme locomotive du système et de générer du contenu pour Vidéotron et pour Québécois. Donc, ça a été toute une transaction et ça vient clore un peu le rachat. Mais ouais, Paul, on a encore des débentures à 4% quand même.
Pardon?
On a encore des débentures à 4% au niveau de la Caisse de dépôt, c'est-à-dire qu'on a un peu de dette qu'on va maintenant rembourser, mais presque rien. Au total, Québécois a repris 100% du contrôle des flux monétaires futurs et de la valeur de Vidéotron.
Merci et à demain, Pierre-Yves.
Salut.